j'aurai le Père. Ça, ce n'est pas très important. L'important, c'est que nous soyons tous au bénéfice de son esprit. Toujours un bonheur de pouvoir partager avec vous. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble. Je n'ai pas la prétention de vous enseigner des choses nouvelles. Il y en a certains, depuis tant d'années, qu'ils écoutent les prédications. On n'a plus beaucoup de choses à vous apprendre, je pense. Nous. Mais le Saint-Esprit est notre Dieu puissant, oui. Parce qu'il vous connaît, il me connaît, il nous connaît à chacun d'entre nous. Là où nous en sommes, dans notre intimité intérieure et dans notre parcours de vie. Et nous sommes là ensemble, mais en fait, nous sommes tous des individualités, des personnalités très importantes pour lui, qu'il connaît par cœur, qu'il a toujours connu depuis même avant notre naissance. Et il a des idées précises et belles pour chacun de nous, et dont une, c'est de nous faire tous entrer dans sa gloire. Après avoir entendu, j'aime beaucoup entendre les chants, la musique. Elles sont inspirantes quand elles sont faites au nom du Seigneur, comme elles le sont ici. Et aussi, j'écoute beaucoup les prières et les cœurs qui montent vers le Seigneur. Je pense que c'est enseignant, ces choses. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, excusez-moi, j'ai pas de tablette, je suis encore en version papier, moi, mais bon, ça va quand même. 1 Chronique 29, à partir du verset 10, la prière de David. 1 Chronique 29, 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. J'aimerais que nous abordions ensemble une réflexion sur la force et la puissance. Et de voir exactement comment le Seigneur veut nous faire comprendre que sa puissance vient de sa force. Notre Dieu est fort, comme les enfants disent de leur papa. Mon papa est fort. Après, c'est différent. Mais qu'est-ce que la force de notre source ? Que nous appelons Dieu. En fait, Dieu, c'est le je suis, c'est la source, c'est la vie, c'est son nom. Peu importe le nom qu'on lui donne au-dessus. Notre Dieu, c'est un rocher immuable, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin, il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation. Comme on dirait chez nous, c'est du solide. Indestructible dans sa position, dans ses projets et sa nature. Ça, c'est fort. C'est une référence. Parce que les références, selon les années, les pays, les cultures, ça change. Mais lui, Il ne change pas. Et c'est d'une force extraordinaire. On peut venir se briser contre ce rocher, on peut faire toutes les démonstrations contre ce rocher, mais lui, c'est le rocher des siècles. Il est fort parce qu'il est parfait. J'aimerais que nous puissions... En quoi est-il parfait ? Nous pourrions lire un texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 3. Et au verset 19, il dit que c'est par sa sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, et c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Sagesse, intelligence et science. Sagesse parce que inventer quelque chose comme la création, il n'y a que lui qui pouvait faire ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit la grandeur de Dieu se voit à l'œil par les choses qu'il a faites. C'est magnifique. Il a inventé ce que personne d'autre ne pouvait inventer d'aussi parfait. Il dit qu'il les maintient par son intelligence. Il fait que les choses fonctionnent. C'est très intelligent de faire des belles choses, mais si elles ne fonctionnent pas, ça va pas. Or, là, depuis des siècles, et pour l'éternité, la création de Dieu fonctionne et est maintenue par sa main et son intelligence. Par sa science, il a inventé quelque chose qui est pérenne, c'est-à-dire qui va savoir fonctionner tout seul. Figurez-vous que on parle d'une certaine forme d'évolution par la nature. Ben oui, la nature se reproduit. C'est même la création qui nous l'instruit. Il nous a donné nous-mêmes la capacité de nous reproduire, de faire fonctionner, de développer cette planète. Les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, on les connaît, mais ça, on n'y revient pas tout de suite. Mais il a inventé ce qui va se développer et fonctionner tout seul, sous son autorité. Avec sa sagesse, sa puissance et son intelligence. Et ça, c'est fort. Notre Dieu est fort dans ce sens-là. Mais il a un autre nom, notre Dieu, notre source. Il s'appelle Amour. Et nous verrons que là, il y a une des clés de sa force. Il est amour. Absolu dans son amour, ne lâche jamais rien pour aimer encore. C'est un passionné, notre Dieu. Il est éclatant d'une gloire absolue qui a triomphé de tout. Vous connaissez que le mot gloire, ça signifie un poids pesant. Et ceux qui ont désirer voir sa gloire. Et ceux qui ont eu des révélations de sa grandeur étaient éblouis et même écrasés d'une telle splendeur rayonnante. Et il est absolu, plus que le soleil, éclatant. Rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut, de l'arrêter dans ce qu'il a projeté, lui qui a toujours été. C'est le psalmiste qui dit « Notre Dieu est au ciel ». Et il fait ce qu'il peut. Non, il fait tout ce qu'il veut. En cela, il est fort. Personne ne l'empêchera jamais de faire ce qu'il veut. Il est fort dans son amour. Il est fort dans son intelligence, sa sagesse, sa science. Il est fort dans sa nature qui ne changera jamais, immuable. Cette situation et cet état de force lui confèrent non seulement la puissance, mais la toute-puissance. C'est ainsi qu'on l'appelle le tout-puissant. Maintenant, j'arriverai à Je vais vous proposer un prénom pour vos garçons, vous allez me dire si ça vous convient. Par exemple, Ange de Lumière. Ça serait bien ça pour un garçon quand même. Mais si je vous dis que on peut le traduire par Lucifer, ça va vous faire un peu peur. Qu'il sait qu'oserait appeler son garçon Lucifer. Pourtant, c'est une belle signification. Non, on préfère Gabriel. Hein. C'est une belle signification aussi. Mais ce Lucifer, qui est devenu le prince des ténèbres, le prince de la puissance de l'air, il nous propose la puissance. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est vendeur. Lui, par exemple, dans son origine, dans son cœur, c'est ce qui a fait qu'il est devenu Satan. Il voulait être Dieu à la place de Dieu. Et il regardait ça comme une proie arrachée, nous dit l'Écriture. Et du coup, ça n'a pas fonctionné avec le Tout-Puissant. Si on ose défier la toute-puissance du Tout-Puissant, alors malheur à qui ose le faire. Et voilà qu'il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Vous savez qu'il a, et il essaie de séduire, comme il l'a fait avec Jésus au désert, dans la tentation. Il lui a proposé la puissance. Il savait que c'était là qu'il allait pouvoir essayer de l'avoir, peut-être. La puissance, le pouvoir illimité, tu peux faire ce que tu veux. La suffisance, tu peux pourvoir satisfaire toutes tes envies. Le règne, tu peux pouvoir régner sur tout le monde. Puissance, puissance, puissance. Et dans notre monde, c'est le marché des puissances. Mais savez-vous que la force de ce puissant a été brisée à la croix? Et donc, il n'est plus le Tout-Puissant, et il ne pourra jamais être le Tout-Puissant. Mais en attendant, il est quand même puissant. C'est pour ça qu'il est parlé de la puissance des ténèbres. Il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, on ne peut pas évacuer ce conflit des puissances. J'aimerais quand même lire avec vous un petit texte dans le prophète Daniel. Au chapitre 2. Vous connaissez tous cette vision de la fameuse grande statue. « Au roi, tu regardais » au verset 31 du chapitre 2, « et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile, et là plus on descend, il y a les fragilités en dessous. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'or, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Imaginez cette puissance au pied d'argile. Je crois que toutes les puissances de ce monde sont des puissances impressionnantes, parfois très malfaisantes, très agissantes, mais au pied d'argile, à cause de la croix. Puissance qui s'oppose à quoi ? Et ça, cette affirmation de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains que nous connaissons si bien, au chapitre 8, oh, vous connaissez bien ce texte, j'ai Paul qui dit que j'ai l'assurance. Alors, je vais retrouver mon texte, ça serait mieux. Voilà. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y aurait donc une tentation, il y aurait donc une pression sur nos vies, une pression sur l'homme, oui, mais ce n'est pas étrange, ça on le sait, pour c'est un conflit de puissance. L'adversaire ne cède rien, il est un très mauvais perdant, et il a décidé qu'il ne lâcherait rien. Et voyez-vous, ça c'est quelque chose de terrible, c'est lié à son orgueil, c'est lié à sa folie. Et donc, il se battra contre Dieu jusqu'à la mort. Et du coup, si nous osons nous mettre sous l'autorité de Dieu, ça ne va pas du tout lui convenir. Nous sommes devenus des cibles. Que nous osions dire oui au Seigneur, et immédiatement, il y a quelques sculptes qui se préparent contre nous avec le viseur. Mais nous savons bien que ces choses nous ont été annoncées, mais qu'elles ne sont pas. Elles sont alertantes, mais pas inquiétantes. Pour cela que le Seigneur est un drôle de berger. Moi, je ne pourrais pas discuter avec un berger des Pyrénées, là, et lui dire, tiens, si tu as un petit troupeau, tu peux le mettre au milieu des loups. Et il va me demander si je ne suis pas un peu fou. Eh bien, le bon berger, lui, il a dit, ne crains pas, petit troupeau, je vous ai mis au milieu des loups, vous y êtes. Mais ça va marcher quand même, parce que je suis le Tout-Puissant. Alors maintenant, parlons de quelques puissances. Puissance religieuse. Toutes les formes de religion. Toutes les histoires des religions. Et les religions sont diverses et variées. Elles sont comme des puissances qui ont séduit le cœur des gens, leur donnant conscience que s'ils appliquent un système, une règle, eh bien, ils vont être les meilleurs et hériter d'un hypothétique paradis. Mais pour cela, il faut se soumettre aux règles de chacune de ceux qui ont inventé, créé, organisé le système. Le cœur de l'homme est religieux par-dessus tout, et ça, même loin de Dieu, il faut qu'il... Il a en lui la pensée de l'éternité, alors il se fabrique toutes sortes de choses pour s'élever et retrouver sa spiritualité. Mais c'est devenu des choses très malfaisantes pour l'esprit de l'homme séduit, parce que, voyez-vous, les religions, c'est bien un mot qu'on a inventé, enfin, qu'on a vécu, qui est dans l'histoire des hommes, les guerres de religion. Il n'y a pas eu autant de massacres de gens jetés les uns contre les autres. Et vous savez que quand on donne plus d'importance aux formes de la foi qu'à la foi elle-même, on devient religieux. Et on est capable de se faire la guerre jusqu'à la mort. Ce sont des puissances que l'adversaire aime bien manipuler. Puissance intellectuelle, philosophie. Oh là là, on va écouter ces gens très intelligents, d'ailleurs très réfléchis, qui vont essayer d'atteindre les clés de l'âme humaine, qui vont essayer de comprendre, qui vont essayer d'expliquer. Sagesse des hommes, Paul en a parlé, mais il dit tout cela est très impressionnant, il y a des puissances vraiment superbes, mais séduisantes aussi, puis parfois égarantes parce que contradictoires. Puissance médiatique, sociale. On nous explique comment il faut être bien, ce qui est le bien et le mal, comment il faut penser, comment il faut réagir, les modes, comment il faut s'habiller, les normes, comment il faut faire, la loi du nombre, forcément, vox populi, vox dei. Donc, on nous formate quelque part un peu. Ce sont des puissances de séduction. Puissance financière, ou alors là, qui c'est qui dirige? Et nous cherchons tous un peu de pouvoir, et spécialement le pouvoir d'achat. Mais c'est parce qu'on est dans un contexte comme ça. Mais ça représente une puissance. Tu vaux combien? T'es bankable. Enfin, tu n'existes que par les zéros qui sont sur ton compte en banque, avec le 1 devant, forcément. Ou tu n'existes pas. Et qui dirige, finalement, ce monde qui est lié, où les riches deviennent de plus en plus riches, où les pauvres deviennent de plus... L'injustice. Ce monde où ce n'est pas seulement les prêcheurs qui dirigent, mais c'est ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Puissance financière qui détruisent ou construisent ce qu'elles veulent, comme elles veulent. Puissance militaire. Ah, regardez-les, ces hommes bardés de décorations, avec toute leur quantité de généraux et autres, et qui regardent leurs armées, leurs obus défiler, leurs hommes marcher au pas. Démonstration de puissance. Et il y en a eu de ces puissances militaires, et de ces Césars, et de ces Alexandre le Grand, de ces Napoléon, de ces Staline, de ces Lénine, de ces Poutine, enfin, bon, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Puissance illusoire, qui disparaissent avec l'histoire, qui font trembler, qui font mourir, qui font massacrer. Oui, les puissances de mort. Et ça, c'est difficile. Nous sommes au milieu de ces puissances. Puissances surnaturelles, certainement. Parce que, comme nous le disions tout à l'heure, le monde entier sous la puissance du malin. Oui, d'accord. Il agit. On ne voit pas le diable à tous les carrefours, mais dans l'esprit de l'homme, au quotidien, il agit. L'homme est magnifique. Et malade, ça commence pareil, mais c'est pas tout à fait la même chose. La planète qu'ils étaient censés gérer est magnifique, est malade. Et cette puissance, oh, il y en a d'autres, mais je vais pas vous fatiguer avec la liste, puissance politique aussi, etc. Mais oui, regardez ce que Paul a dit, et j'en viens maintenant quand même à cette exhortation. Eh ben, aucune de ces puissances ne pourra me séparer, il y a quelque chose de supérieur. Et quelquefois, il y a des puissances qui nous font très mal, que nous subissons, et qui pourraient nous faire lâcher prise dans notre foi et dans nos racines. Où sont nos racines? Elles sont dans l'amour de Jésus. Elles sont dans l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et nous pourrions être saisis dans nos cœurs, par tant de déchirements, tant de doutes, tant de fatigue, tant de pression, d'oppression. Mais, Paul dit, rien ne pourra me séparer de ce que j'ai rencontré quand j'ai rencontré Jésus dans sa gloire, dans sa force, dans sa beauté. Nous sommes donc appelés à être saisis et renouvelé dans l'esprit, parce qu'il nous faut être fort, bien-aimés. Excusez-moi de parodier une expression connue par tous, mais comme ça vous comprendrez, que la force soit avec vous. Plus que ça, qu'elle soit en vous. Et le Seigneur veut renouveler sa force en chacun de nous. Parce que la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, les ados se fatiguent vite, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, il y a quand même des choses à renouveler en nous, il y a quand même des choses à entretenir. Et il y a quand même des choses vers lesquelles il nous faut aller pour que nous puissions avoir la force. Ne croyons pas que nous aurons la force tout seuls. C'est illusoire. C'est un piège de l'adversaire qui voudrait nous montrer que nous pouvons très bien nous passer de cette révélation de Jésus-Christ à la croix et que nous sommes assez grands pour faire les affaires de Dieu selon notre propre habitude, selon notre propre sagesse, selon notre propre histoire et ce que nous avons appris. Mais qui sommes-nous face à la grande sagesse? Et quand on se fracasse un petit peu contre le mur des réalités de la vie et de certaines puissances même qu'on n'avait pas vues qui agissaient dans l'ombre, et on découvre là qu'on est tout faible, tout fragile, qu'on avait rêvé des choses, mais Seigneur, le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, je le savais. Je ne suis pas surpris. Mais toi, sois fort. Et j'aime bien cette expression pour l'homme de Dieu. Toi, va avec la force que tu as. Mais je n'en ai pas. Mais justement, je vais t'en donner, ça tombe bien. Je vais te la renouveler par mon esprit, la force. La force, le Seigneur veut. La force de vivre. Vous connaissez ce chant? En te voyant, nous retrouvons. Ah ben tiens. Oui, c'est vrai. Il y a des moments où on n'a plus la force de vivre. Même en tant qu'enfant de Dieu. On ne sait plus où on en est. On est affaibli sur le terrain. Et le Seigneur veut venir. Il veut venir. Regardez, la révélation de l'apôtre Paul, finalement, c'était quoi? C'était que lui, il était puissant. Il faisait arrêter tout le monde, il avait puissant intellectuel, puissant politiquement, puissant tout. Et quand il a rencontré Jésus, oh, la lumière pesante de sa gloire, dont nous parlions tout à l'heure. Et à partir de là, il a dit, ah, mais maintenant, je peux tout. Mais je peux tout, mais pas comme avant. Moi, je peux tout pour Dieu. Oh, tais-toi, tais-toi. Je peux tout par celui qui me fortifie. À une condition, c'est que je reste sous son ombre, à son écoute. Et là, je dis, la force, en te voyant, la force d'aimer malgré tout. Aimer malgré tout. Parce que forcément, vous vous êtes entouré que plein de gens qui vous aiment parfaitement. Donc, c'est merveilleux, mais quelquefois, ce n'est pas le cas. Et quelquefois, ce n'est pas qu'on aime trop peu, c'est qu'on aime trop mal. Mais ça, le Seigneur le sait aussi, et il veut nous donner la force d'aimer. La force d'aimer même ceux qui nous ont fait du mal. La force d'aimer ceux qu'on a du mal à aimer. Justement, ceux-là que le Saint-Esprit veut nous fortifier et nous libérer de toute racine qui pourrait empoisonner nos cœurs, afin que nous soyons en paix à l'intérieur. Et quand nous sommes en paix à l'intérieur, nous sommes forts. C'était un homme comme ça, ils avaient appelé Dieu, mais ça c'était vraiment pas juste. Et il avait fait une campagne électorale pour être président, il l'a été d'ailleurs en France, et il avait pris comme le logo, enfin voilà, le slogan, la force tranquille. Enfin lui, c'est une petite puissance qui a disparu, mais la force tranquille, c'est ce que Dieu veut nous donner, même au milieu de la tempête. Je ne comprends pas comment Jésus peut dire à ses disciples, moi je peux pas, qui ait déjà peur en avion, qui ait peur même au bord de la mer quand elle est calme, je me retrouve à hurler au bord du bateau, Seigneur, mais on va mourir. Et lui de le répondre, mais il dit, ça va pas, pourquoi vous avez peur? J'en ai peu de fois, oh Seigneur, mais pourquoi tu nous parles comme ça? Parce que vous nous expliquez qu'il est fort et tout puissant même sur les événements et les éléments qui nous ont et qui nous chahutent à mort. Seigneur, tu es fort. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Comme j'ai peur de ce que je vois, de ce que je pourrais imaginer. Comme je suis désolé, Seigneur. Mais le Seigneur dit, je suis fort. Et fais-moi confiance. Fort la force de donner encore. Vous savez, ça, c'est pas comme les gens avec qui on frappe à la porte. Merci, j'ai déjà donné. Mais que parfois, il y a des chrétiens aussi qui sont cassés et qui disent, bon, moi, ça va maintenant rouler, j'ai déjà donné. Et le Seigneur dit, non, non, non. Il y a encore des trucs, je vais t'en remettre pour que t'en redonnes. Je vais t'en redonner pour que t'en redonnes. C'est pas pour garder pour toi, c'est pour en redonner encore. Parce que j'ai besoin de donneurs. Mes enfants, c'est des donneurs, c'est des généreux. C'est de ceux qui offrent encore, mais offrent pas n'importe quoi, qui offrent pas seulement leur propre force, mais la mienne que je vais renouveler dans leur cœur par la communion que nous aurons ensemble. La force de pardonner, ça s'appelle donner par-dessus, malgré tout. Parce qu'il est long, hein. Oui, mais le Seigneur dit, eh ben, et toi, tu t'es pas vu quand je t'ai pardonné? Et tu t'es pas vu, toi? Et moi, je t'ai vu dans les couloirs. Moi, je t'ai quand même aimé, hein. Mais j'aurais pu te mettre deux claques. Mais non, je ne l'ai pas fait. Je t'ai attendu. La force. Comme le fils prodigue, là. Mais lui, il avait une certaine puissance, hein, de l'héritage. Donc, il a été avec sa puissance. Et il avait la puissance avec les faux amis autour. Il avait été un groupe. Il avait la puissance avec ses convictions. Oh là là, nos convictions. Ça, c'est encore un truc. Il avait la puissance. Il était sûr que c'était ça. Et puis après, forcément, il a compris que c'était pas ça. Dommage, il s'est fait beaucoup de mal pour rien. Mais quelque part, il s'est enrichi dans la repentance, dans le retour à son Père. Et je crois qu'on s'enrichit toujours, malgré tout, parfois, nos bêtises agies, nos bêtises parlées, nos bêtises, mais quelquefois même pas réfléchies. Mais le Seigneur a dit, je t'attends toujours, tu sais. Tu n'es pas indigne pour moi, je suis passionné de toi. Et comme je savais tout d'avant, je ne suis surpris par rien et déçu par rien, je t'aime. Maintenant, tu as besoin de ma force, il faut que tu le comprennes. Tu as besoin d'agir avec moi. Tu as besoin d'agir par mon onction renouvelée sur ta vie. C'est pas une injonction, comme si Dieu voulait nous faire de nous des bons soldats, bien obéissants, bien rangés, qui marchent au pas. C'est pas ça la révélation de Dieu. C'est qu'il sait le potentiel qu'il a mis en chacun de nous et il veut nous aider et il veut bénir les circonstances pour que nous puissions l'exprimer. La force pour persévérer jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui peut faire que nos frères et sœurs martyrisés, déchirés, leurs églises brûlées, leurs familles tuées et tout, sont là en Afghanistan, partout, et où est leur force? Mais c'est le même esprit qui est pour nous, qui est pour chacun de nous. Et le Seigneur le veut, a la force de résister aux pressions, aux oppressions, aux agressions, aux doutes. Il faut être fort, et le Seigneur veut nous donner cette force, il nous l'offre. La force de se battre aussi, pour conquérir encore des territoires que le Seigneur veut nous faire conquérir. Quand Josué est allé, va, oui, avec cette force que tu as, va. Il y a des terrains à conquérir, il y a des victoires encore à découvrir. La force d'espérer encore et encore. La force de croire. De savoir, la force de voir ce qui est invisible, comme Abraham dans sa foi. Oui, cette force nous vient de notre foi en lui. Elle nous vient d'un renouvellement, de la révélation de son amour quand nous partageons cette scène. N'oublions pas simplement de considérer que Jésus a fait un exploit. Il a fait un exploit en réalité, bien sûr, c'est grand. Mais il n'a pas fait un exploit pour se prouver qu'il était grand à lui et nous le prouver à nous. Non, c'était seulement un acte d'amour pour nous. Et il a dit, tu vois ce que tu vis là, c'est nul, c'est moche, tu pleures, tu ne sais plus où tu en es. Mais la croix a tout résolu. Peut-être pas dans l'instant. Je te donne la force encore pour patienter si tu veux. Mais reste attaché à mon amour. ne te laisse pas séparer de mon amour. Ne te laisse pas détourner, amuser, occuper par autre chose que par cet amour que j'ai pour toi. C'est central, c'est absolu. Et je veux que tu t'en souviennes à chaque fois que vous vous rassemblez. Je veux que vous souveniez de ça. Et que vous puissiez, quand vous partagez ce repas, être là dans cet examen du cœur, non pas comme une introspection maladive, mais Seigneur, oui, je veux renouveler ma confiance en toi et dans ta force à la croix pour moi. Je veux renouveler cet esprit de bénédiction, de miséricorde et de pardon pour tous mes frères et sœurs. Et tous ceux qui t'appartiennent. Oui, Seigneur, je veux le faire comme tu as aimé chacun de nous et moi le premier à la croix. Ça, c'est ce que le Seigneur désire. Nous faire voir au travers de cette scène sa présence alors et notre son onction, sa gloire, sa parole. Où j'ai coutume de dire que ce livre n'est pas la parole de Dieu. Vous me comprendrez quand je dis ça. Mais la parole de Dieu est dans ce livre. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'a le droit d'utiliser les versets bibliques pour retomber sur ses pieds et faire ce qu'il veut. Ce livre n'est pas exploitable par ceux qui ne sont pas sous l'autorité du Saint-Esprit. Comprenez bien que même le diable utilise les versets bibliques. Donc pour moi, être biblique, si on veut, c'est pas forcément être spirituel. Mais être sous l'onction de l'Esprit nous ramènera dans la lumière et la vérité de cette parole. Et lui donnera et nous donnera autorité, en ce sens, dans nos propres cœurs. Oui, son amour pour nous, notre foi en lui. Et il y a une chose qui est la sagesse de Dieu. Je vais m'arrêter un peu quand même, parce qu'il faut pas trop vous fatiguer. La sagesse de Dieu. Quelle était, on revient à mon histoire là, entre Lucifer et Jésus. Jésus a dit quelque chose quand il était dans son corps de chair. Il a dit, je suis doux et humble de cœur. Et Lucifer a dit, non, c'est moi le plus fort, j'aurai tout. Différent comme mentalité. J'aurai raison. Je finirai par avoir raison. Mais non. Jésus a dit, moi, je sais que j'ai raison, mais je me donne et je m'offre pour vous, même si vous me traitez injustement. Et même si vous me mettez à la croix et que vous dites, ah finalement, c'est nous qui avons eu raison. César peut dire ça. Pilate peut dire ça, finalement c'est nous qu'on a... Ah, on a eu raison, les juifs religieux qui l'ont mis à mort. Et enfin, on a le dernier mot. Méfiez-vous du dernier mot, c'est celui qui tue. Hein. Alors non, le Seigneur, il a dit, moi je m'offre parce que je vous aime. Et j'ai une autre vision. Que le Seigneur nous aide, la sagesse de Dieu et la force de Dieu est dans son humilité. Dieu est quelqu'un d'écrasant qui n'écrase personne. Écrasant de gloire, et il n'écrase personne. L'homme qui a échappé à l'autorité du Seigneur n'a qu'une idée, c'est de dominer sur son prochain. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et il a besoin de ça pour s'assumer. C'est ce que disait... Monsieur de La Fontaine, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Mais la loi du plus fort, d'accord, moi je veux bien. Mais le plus fort, c'est mon Dieu. Alors c'est la meilleure. C'est la meilleure loi. Parce que sinon, c'est une séduction. Voilà, que nous allons ensemble. Et puis, j'ajouterai encore, parce qu'il y a toujours... Oh, la parole de Dieu, c'est sans fin. Vous avez entendu tout, ça aussi vous connaissez. L'union Eh bien voilà. Alors, l'apôtre Paul disait, ah ben si vous vous mordez, il y a des chrétiens, ils ont la rage, ils mordent. Vous savez. Mais si vous mordez les uns les autres, ça ne va pas. À ceci, tous connaîtront, il y a le label spirituel. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est votre identité. C'est ça ou c'est rien. C'est ça ou c'est la religion. C'est ça ou c'est une fausse puissance. Mais le petit peuple qui est sous l'autorité du Saint-Esprit, considéré comme fini, comme mort, comme terrassé, comme Jésus, quand ils ont descendu de la croix, il était en train de remporter la victoire. Il était le plus fort, parce qu'il était caché dans son Dieu, avec un esprit d'humilité et de soumission à son Seigneur. Et il savait que la parole, ce n'était pas une suite de textes qu'on enfile, mais c'était le souffle de l'esprit de vie dans nos cœurs qui rend vivante et brûlante cette parole et qui s'impose à nous, petite créature bien-aimée du Dieu grand et tout-puissant. Que son nom soit béni. Seigneur, viens